Radio Campus 88.3. Méfiez-vous, ils sont là.
Radio Campus 88.3 FM. Dernier sur l'audience, mais premier sur le style.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Clitoriciennes. Émission un petit peu spéciale ce soir, puisque nous avons animé le 23 novembre dernier une table ronde avec des acteurs et actrices de terrain qui accompagnent les proches et les victimes de violences sexistes et sexuelles localement. C'était donc un événement organisé au 108 rue de Bourgogne, jeudi 23 novembre, Agir contre les violences sexistes et sexuelles. Dans cette table ronde, vous entendrez Vincent Reynaud du Planning Familial, Manon Cornu du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Loiret, le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret représenté par Christophe Desportes-Guillou, et enfin Natacha Rogalan qui est psychologue du commissariat d'Orléans, le tout animé par les Clitoriciennes. Bonne écoute et à bientôt. Peut-être revenir un petit peu sur un constat de départ. On est peut-être tous et toutes convaincus ici, mais bien sûr, je pense qu'il est important de rappeler que les violences sexistes et sexuelles sont un phénomène massif qui doit nous laisser encore en alarme. Je voulais juste rappeler encore qu'en 2022, il y avait 147 féminicides, que selon le Haut Conseil à l'égalité dans son baromètre du sexisme, une femme sur cinq âgée de moins de 24 ans a déjà subi un viol ou une agression sexuelle. On l'a dit et on l'a vu tout à l'heure avec Laure Salmona, et je pense que c'est intéressant aussi de se situer dans la continuité de ce qui a été dit, que les violences, elles sont protéiformes et qu'elles s'inscrivent dans un continuum du sexisme ordinaire, de la blagounette entre guillemets, hein, jusque aux différentes formes de violences. On a parlé du cybersexisme, mais on peut aussi parler évidemment des violences matérielles, des violences psychologiques, autant de violences qui ont été citées tout à l'heure. Donc les violences sexistes et sexuelles, il faut bien avoir conscience qu'elles existent dans la plupart de la vie des femmes, quelle que soit leur forme, quel que soit leur impact. Mais pas seulement les femmes, c'est toutes les personnes aussi qui vont vivre des violences en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler de violences de genre ce soir. Je voulais aussi faire rappeler un petit peu le dernier rapport de SOS Homophobie, hein, qui constate une aggravation, un pic, en tout cas, de sollicitation auprès de sa ligne d'écoute pour des cas de violence transphobe qui concernent particulièrement les femmes trans. Donc, on va rediscuter de tout ça. Peut-être est-ce le signe d'une parole qui se libère, ce sera aussi quelque chose qu'on pourra aborder. En tout cas, ça nous semblait important, quand on a construit cette table ronde, de répondre à des questions qu'on nous pose très souvent. C'est « je connais quelqu'un, j'ai été témoin, je suis proche d'une victime. Aujourd'hui, quel accompagnement localement je peux me diriger, quel dispositif existe ? » Alors, pour répondre à ces questions et pour nous faire un petit peu le tour des dispositifs, de l'accompagnement, nous avons sur cette, pas du tout table ronde, mais sur ce banc, tout au fond, Vincent Reynaud, animateur du planning familial du Loiret. À ses côtés, nous avons Natacha Rogalan, psychologue clinicienne à la direction départementale de la sécurité publique du Loiret et qui exerce donc à l'hôtel de police d'Orléans. Nous avons ensuite Manon Cornu qui est juriste et coordinatrice au CIDFF du Loiret. Et enfin Christophe Desportes-Guillou qui est référent prévention des discriminations anti-LGBT+, au groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, le GAGL 45. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on va peut-être commencer par le planning familial. Évidemment, on va faire un petit tour hein, des personnes présentes. Mais il y aura bien entendu un moment d'échange entre nous et des questions, des précisions qui pourront être apportées au fur et à mesure. Alors, Vincent, je crois que pour le planning familial, vous êtes dans une approche peut-être plus collective dans le cadre des préventions des VSS. VSS, violences sexistes et sexuelles.
Oui, le collectif. Ça marche ? Oui, le collectif, ça fait partie de la culture des mouvements féministes. Hein. L'idée du collectif, c'est de sortir aussi de l'individualisation des problématiques rencontrées par les personnes et de proposer des dispositifs où les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules à vivre ce qu'elles vivent. Donc nous, voilà, ça fait partie des propositions qu'on peut faire d'accueillir les situations, notamment en lien avec les violences. Alors, principalement, nous, on a là en ce moment axé très fortement sur la question des violences, des mutilations génitales féminines. Là, on reçoit à peu près, on fait partie du parcours dans l'accès pour l'obtention des titres de séjour. Puisqu'on a des médecins, on fait partie du parcours pour ces personnes-là. Donc là, en ce moment, on a à peu près une soixantaine de personnes qui fréquentent nos locaux. On a un groupe, une soixantaine de personnes qui ont été victimes de mutilations génitales. Et puis plus globalement, voilà, la question du collectif, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, notamment au milieu scolaire, parce que là, on intervient dans des dizaines et des dizaines de classes tous les ans. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on travaille spécifiquement. La question des stéréotypes de genre, la question des violences sexistes, du consentement, c'est quelque chose qui est travaillé au quotidien avec plein de groupes au planning.
Donc ce qu'on connaît moins peut-être du planning familial du Loiret, c'est effectivement ce groupe constitué sur la question des mutilations génitales. Tu viens d'en parler.
Ouais.
Donc groupe de parole qui se réunit assez régulièrement.
Oui, ils se réunissent à peu près une fois par mois. C'est avant, pour le moment, on est vachement sur un truc autour de la convivialité, de la rencontre, etc. Et puis émerge aussi chez certaines l'envie de s'informer sur pourquoi pas la reconstruction. On fait intervenir une sexologue pour permettre à ces personnes de pouvoir vivre une sexualité, moins douloureuse pour certaines. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Et on espère à terme, pourquoi pas, la création d'une association qui travaillerait vraiment spécifiquement en ce sens avec ces personnes-là. Menée par ces personnes et pour ces personnes.
D'accord. Et vous intervenez aussi de plus en plus sur les violences en milieu festif.
Ouais, on a là, cette année, on est déjà, je crois, à peu près 14 temps d'intervention en milieu festif. On a rencontré 1200 personnes. Donc oui, sur nos stands, etc., on a tout un tas de messages en lien avec les comportements qu'on peut voir parfois en milieu festif, les comportements d'agression sexuelle, de sexisme, etc. Donc voilà, nous, notre travail, il est aussi de sensibiliser en milieu festif les personnes, le public, sur ces questions-là. Quoi.
Concrètement, vous avez des stands, c'est ça ?
Concrètement, des stands. On a un partenariat un peu renforcé avec l'Astrolab. On a eu une co-formation, sensibilisation par l'association Consentis. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est aussi d'être de plus en plus visible et de rendre ces questions-là de plus en plus visibles en milieu festif.
D'accord. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les affiches Consentis ici ou également au 108, affichées un petit peu partout. Je crois que vous avez aussi quand même une démarche un peu systématique de questionnement des femmes qui se rendent au planning familial. C'est bien ça ?
Oui, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que toutes les personnes qui sont accueillies au planning familial, on va les questionner sur leur vécu au niveau des violences, que ce soit des violences passées, des violences actuelles. On reçoit à peu près 2500 personnes tous les ans, 97% de femmes. Là, les chiffres, vite fait, c'est on a repéré 577 personnes qui nous ont dit être victime ou avoir été victime de violences, quelle que soit la nature des violences. Ça peut être des violences dans l'enfance, des violences au sein du couple, au niveau familial. Voilà, on est quand même sur plus d'un quart des personnes accueillies qui disent avoir été victimes de violences.
Et dans ce cas-là, vous réorientez ?
Alors, nous, on peut proposer, on va proposer donc déjà un entretien autour de ces questions-là. On peut éventuellement proposer un ou deux autres rendez-vous en fonction de ce que la personne aura, ce dont la personne aura besoin. Et puis après, bien sûr, on va réorienter parce que nous, on a une limite au niveau de nos compétences. Et puis, on préfère réorienter s'il y a le souhait d'un dépôt de plainte, s'il y a le souhait d'un suivi psychologique, s'il y a le souhait d'avoir des informations plus juridiques. Voilà, on va réorienter auprès des collègues qui sont à côté.
Oui, et notamment Natacha Rogalan, vers qui je me tournerai peut-être tout à l'heure. Juste pour terminer, là on était vraiment sur l'axe prévention. Est-ce qu'au GAGL, il y a aussi un axe prévention des violences ?
Oui, mais on se retrouve avec Vincent et avec les équipes du planning familial régulièrement en collège, en lycée, pour effectivement des temps de prévention collective. Ça fait 15 ans maintenant qu'on intervient en collège et en lycée. Et on voit à peu près la moitié d'une classe d'âge. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le Loiret, il y a un collégien, une collégienne sur deux qui, dans sa scolarité, a une intervention sur les LGBT-phobies. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais par rapport à beaucoup d'autres départements, c'est déjà pas mal. On a des tout petits moyens humains, mais ça va se renforcer. Et l'objectif, c'est à terme, d'ici un an et demi à peu près, d'arriver à une classe d'âge complète. Se dire que tous les collégiens et collégiennes auront au moins eu une fois une intervention sur les LGBT-phobies. Sinon, après, on est plus sur de l'accueil individuel dans nos locaux. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou voilà.
Oui,
et donc, on a un local en plein centre-ville d'Orléans, juste derrière la FNAC. Donc, c'est à la fois très facile d'accès.
On peut rappeler l'adresse, peut-être ?
Oui, c'est 28 bis rue Sainte-Anne. C'est à la fois facile d'accès et en même temps, c'est suffisamment discret pour que les personnes qui sont en difficulté avec l'idée de rentrer dans un centre LGBT+, puissent le faire quand même. Et chaque année, on reçoit en entretien individuel plus de 900 personnes. Et ce n'était pas du tout les objectifs qu'on avait au départ quand on a ouvert il y a 15 ans, d'ailleurs 2008. Et on imaginait avoir quelques visites par semaine. Là maintenant, c'est 3-4 entretiens par jour. Et alors, pas simplement sur des thématiques de violence. On a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin de parler de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de questionnements, de difficultés parfois administratives, avec la famille, avec l'environnement, avec le boulot, avec l'école. Et puis aussi tout un panel de questions sur la santé sexuelle. On est centre de dépistage du VIH, par exemple. Donc voilà, on a cet accueil tous les jours de la semaine, tous les après-midi sans rendez-vous, tous les matins sur rendez-vous. C'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de centres LGBT qui sont ouverts tous les jours pour tous les publics, en fait.
Et vous avez aussi des questions sur les violences conjugales ?
Oui. Oui, en fait, c'est... Au départ, nous, on n'est pas spécialistes de grand-chose. On est d'abord une asso de bénévoles. On avait jusqu'il y a un mois un salarié. On a maintenant deux salariés. On a doublé l'effectif. Mais et c'est les publics, en fait, qui nous ont amenés à nous intéresser à un certain nombre de sujets. Et il y a une petite dizaine d'années, on a été confrontés à des situations de violence conjugale. Mais les situations de violence conjugale dans les couples qui viennent chez nous ou pour les personnes qui viennent chez nous, ce n'est pas les mêmes situations. Ce n'est pas des couples hétéros. En général, donc c'est pas un homme qui frappe une femme, c'est un homme qui frappe un homme ou une femme qui frappe une femme, et ça nous a amené à réfléchir sur comment on pouvait parler des violences conjugales quand ça concerne des couples LGBT+, parce que du coup les discours sont pas tout à fait les mêmes, le rapport de domination, on peut pas l'exprimer de la même façon, même si en fait on s'aperçoit que c'est quand même malheureusement encore des questions de domination et que même ça fait des fois un peu sourire quand je dis ça. La question de la pénétration, c'est une question le pénis est une arme pour certains. Et le point commun qu'on va avoir dans les violences conjugales dans les couples, principalement les couples homo, le point commun qu'on va avoir avec les couples hétéros, c'est qu'en fait, dans les couples homo, les personnes les plus, y a plus d'auteurs qui sont des hommes que d'autrices qui sont des femmes. Et du coup, il y a plus de victimes qui sont des hommes, parce que voilà. Mais ces 4 dernières années, alors c'est des tout petits chiffres, il y a 2 femmes qui ont été tuées par leur compagne ou leur ex-compagne, et il y a eu 14 hommes qui ont été tués par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Et donc, évidemment, on n'est pas dans un dans le schéma, c'est un mec qui frappe sa nana, mais on est dans le point commun, c'est que les auteurs sont des hommes. Donc, ça pose des questions sur comment on élève les garçons, en fait, et le rapport à la violence, tout simplement.
Et à la virilité, au virilisme.
Voilà, ouais. Pour être viril, il faut être violent, il faut être sexiste, homophobe.
Et donc, quand vous entendez des témoignages de violences LGBT-phobes, est-ce que vous orientez aussi, est-ce que vous accompagnez vers d'autres partenaires ?
Oui, on a un peu, alors avec moins de moyens que le planning, ça va dépendre des problématiques en fait. Nous, ce qu'on sait faire, c'est accueillir et écouter, donc c'est pas grand-chose. Or, c'est déjà énorme, mais voilà, on n'est pas psy, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, on n'est pas policier, donc voilà, on va orienter, d'ailleurs aussi... Ah non, j'ai perdu. C'est bon. Aussi au planning parfois, mais il y a quelques temps, on a échangé avec Natacha Rogalan justement pour une orientation vers le commissariat de police. Ça peut être compliqué. Alors on sait que c'est compliqué pour beaucoup de victimes d'aller porter plainte. C'est très compliqué pour une femme qui a été victime de violence d'aller porter plainte, mais c'est aussi compliqué quand on est un mec et qu'on a été frappé par son compagnon, parce qu'on rajoute à la question des violences conjugales la question de l'homosexualité, et c'est pas toujours simple. Donc voilà, on essaie de faire du lien dans ces cas-là avec les services de police ou de gendarmerie.
D'accord. Donc Natacha Rogalan, ça fait deux fois qu'on parle de vous. Donc visiblement un rôle indispensable. Est-ce qu'on peut en savoir plus ?
Oui. Alors donc moi, ça fait maintenant presque 13 ans que j'interviens en commissariat de police d'Orléans pour l'accueil du public. Et donc mon rôle, c'est vraiment de recevoir toutes les personnes qui se présentent au commissariat, principalement des personnes victimes, mais ça peut être des témoins, des proches. Voilà, en tout cas, c'est un rôle, un poste à destination du public. Et parmi les victimes reçues, bah, effectivement, il y a la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et donc, je suis un lien entre le commissariat, les personnes et les partenaires, parfois en fonction des besoins et des problématiques.
D'accord. Dans quel espace-temps ça se situe, ça, par exemple, si on vient porter plainte, l'accompagnement, on peut vous voir après, comment ça se déroule, ou en amont, comment ça se passe exactement ?
Eh ben, en fonction des besoins. Donc la plupart du temps, les personnes, je les reçois après un contact, en tout cas, avec la police, suite soit une main courante, un dépôt de plainte ou une prise d'information aussi, parce que parfois les gens ont besoin simplement d'être informés, de savoir un petit peu que dit la loi, quelles sont les démarches possibles, souhaitables, etc. Donc la plupart des personnes me sont orientées effectivement par mes collègues policiers. C'est quand même la majeure partie des orientations, mais voilà, j'essaye de tisser le maillage partenarial depuis le début, et du coup de faire en sorte que ce poste-là il soit aussi identifié par les partenaires pour pouvoir parfois orienter des personnes pour qui c'est compliqué, ne serait-ce que de passer la porte du commissariat. Et donc ça peut être ça aussi mon rôle, d'avoir ce premier accueil, de pouvoir faciliter quelque chose à cet endroit-là pour la personne. Et puis en fonction, être orientée, moi-même réorientée vers d'autres partenaires ou orientée vers les services de police pour une procédure par exemple.
Alors j'ai dit en introduction que le constat sur les VSS il était assez implacable en termes de chiffres notamment. Est-ce que en 15 ans d'exercice vous avez pu constater une augmentation des demandes de gens qui viennent vous voir ?
Oui, bon, alors moi déjà je suis toute seule sur mon poste, donc j'ai été rapidement pas sans travail. Ce serait plutôt les services plaintiers en fait qui pourraient témoigner. Ils témoignent d'un essor qui ne cesse en fait en termes de nombre de plaintes. Donc oui, il y a de plus en plus de signalements en tout cas. Après les faits, c'est toujours difficile à dire si les violences augmentent. Ou si les personnes signalent plus. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux.
D'accord. Dans les cas. Vous accueillez aussi des mineurs ?
Je reçois des mineurs, mais plutôt des pré-ados-ados, pas les enfants. Je ne suis pas spécialement formée pour la petite enfance. Et puis, il y a l'UAPED, l'unité à l'hôpital, donc je laisse le soin à ces professionnels, mais des pré-ados-ados, je reçois.
D'accord. Et donc, vous êtes régulièrement en contact avec ou le planning ou le CIDFF, peut-être, je ne sais pas. C'est ça ?
Oui, fonction des besoins des uns et des autres. Donc moi, quand j'oriente, souvent, c'est plutôt soit pour du médical, un accompagnement psychologique dans la durée, plus que ce que moi je vais proposer, puisque c'est du court et moyen terme, pour travailler quelque chose en particulier lié à l'événement qui s'est produit, ou accompagner l'impact traumatique pour certaines personnes de ce qui s'est passé pour elles. Et puis après, en fonction des besoins, effectivement, ça peut être juridique, donc le CIDF, l'AVL, le LAE.
Alors, oulala, il y a eu plein de sigles.
Oui, pardon.
Alors, on va les reprendre.
Le Centre d'information des droits.
Manon va nous en parler juste après.
L'Association d'aide aux victimes du Loiret, association pour surtout de l'information juridique et enfin d'autres choses, mais moi j'oriente beaucoup pour ça, pour les victimes d'infractions pénales. Le lieu d'accueil et d'écoute, qui est aussi un partenaire important,
dont nous parlera Manon aussi.
Et parce qu'on a notamment un intervenant social, enfin l'intervenant social commissariat, qui est rattaché au LAE et qui fait également trois permanences, trois demi-journées par semaine au commissariat, avec qui, moi je considère que je travaille en pluridisciplinarité avec l'intervenant social, mes collègues policiers. Et notamment sur les situations violences faites aux femmes, puisque c'est aussi leur spécificité. Donc vraiment, ça permet d'avoir un maillage et de proposer notre accompagnement de manière plurielle. Et ça, c'est important.
D'accord, on n'est pas seul dans son coin, mais on travaille ensemble. Et Manon Cornu, il manquait aussi le CIDFF dans ce tableau, dans ce panel assez large des intervenants et intervenantes auprès des victimes de violences. Alors le CIDFF, quel rôle ?
Alors en fait, ça marche, oui. Au CIDFF, ce sont des juristes qui accueillent soit les femmes victimes de violences, soit leurs proches, en entretien gratuit, individuel, confidentielle et anonyme. Et du coup, on donne des renseignements sur leurs droits, sur les procédures qui existent. Après, elles peuvent s'en saisir ou non. Et évidemment, en fonction du danger, on peut leur présenter plusieurs outils de protection pour les protéger elles ou protéger les enfants. Parce qu'on est spécialisé en droit de la famille et en droit pénal, en accompagnement des femmes victimes de violences. On peut aussi avoir des hommes, c'est ouvert aux proches. Tout le monde. Et on travaille en partenariat avec... on peut faire des orientations vers nos partenaires pour faciliter le parcours.
D'accord. Et vous avez parlé du LAE, c'est ça ?
Oui, le LAE, en fait, certaines juristes et certaines psychologues du CIDFF interviennent au LAE. C'est un dispositif interpartenarial qui est porté par la EDAFI.
Est-ce qu'on peut... Alors, je vais attendre. Non, mais c'est vrai que l'idée étant quand même que chacun et chacune repartent avec les noms en tête. Déjà, peut-être, je ne sais pas si on l'a déjà précisé, LAE, ce que ça veut dire.
Oui, le LAE, le lieu d'accueil et d'écoute pour les femmes victimes de violences. D'ailleurs, au LAE, là, on ne reçoit que les femmes en entretien individuel. On peut quand même orienter, enfin on peut donner des renseignements par téléphone aux proches, à l'employeur. Parfois, ils demandent des sensibilisations. Mais pour les entretiens individuels, on reçoit que les femmes. Donc c'est pour les femmes qui ont subi des violences dans le passé ou qui subissent des violences actuellement. Sachant que c'est un lieu d'écoute, donc nous, on écoute avec bienveillance. On travaille toujours en binôme. C'est important dans l'accueil. On travaille avec soit une psychologue du CIDFF, une juriste du CIDFF et un travailleur social, une éducatrice spécialisée de la EDAFI. Et en fait, ça nous permet d'avoir des compétences croisées pour avoir des pistes de réflexion. Et c'est super important déjà pour nous, pour faire un débrief en équipe, pour savoir si on n'a pas oublié des choses dans l'accompagnement. Mesurer aussi le moment où on va proposer davantage de mesures de protection, par exemple. Et même pour la charge émotionnelle, c'est plus facile d'être à deux en binôme, et surtout pour pas recréer une relation de dépendance pour ces femmes qui sont parfois relativement fragiles, et c'est normal au vu de leur parcours. Donc, je vous ai pas parlé de ça, mais les entretiens du LAE aussi sont gratuits, anonymes et confidentiels.
Très important à noter.
Voilà. Hein,
c'est quand même peu incontournable.
On travaille avec les ISC, donc les intervenants sociaux en commissariat ou en gendarmerie, qui sont rattachés avec nous, qui participent aux réunions d'équipe. Et c'est très important parce que du coup, ils captent les situations du commissariat où on a une suspicion de violence. Ça peut être les violences au sein du couple ou des violences au travail, d'autres types de violences. Mais dans ce cas, c'est important. Eux, ils nous font des orientations vers le LAE pour l'écoute. Et nous, on leur oriente aussi nos femmes qui ont des difficultés pour franchir la porte du commissariat, où on va prendre le temps d'expliquer exactement, étape par étape, comment ça va se passer. Elles peuvent être présentes parfois pour les accompagner physiquement si c'est trop compliqué. Voilà, c'est un travail qu'on fait au LAE et au CIDFF.
D'accord. Vous avez parlé des mesures de protection.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, comme mesures de protection, il y en a plusieurs. Par exemple, je pense à l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est une mesure relativement rapide, parce que légalement, on peut l'avoir en 48 heures. Dans les faits, c'est plutôt une semaine. En fait, il faut des faits... soit les femmes peuvent la demander elles-mêmes, soit elles peuvent demander qu'on les accompagne, soit en association. Et du coup, on les aide à rédiger une lettre au JAF, pardon, le juge aux affaires familiales, qui va statuer en fonction... Enfin, elle fait son récit. On lui explique qu'il faut décrire le type de violence, la répétition, donner quelques exemples. Et en fait, en fonction de l'urgence, le juge aux affaires familiales peut donner des mesures de protection, donc soit l'éloignement du domicile du conjoint violent ou du compagnon, sachant que ça se fait pendant la procédure, ça se fait quand la dame a besoin en urgence d'une protection. On n'a pas besoin d'une condamnation et on n'a pas besoin d'une plainte au préalable.
D'accord. Et ensuite, donc on a dit la mesure de protection.
L'ordonnance de protection, on a les bracelets anti-rapprochement. Donc là, on a besoin d'une géolocalisation pour vraiment... Alors là, c'est quand il n'y a pas de cohabitation. Parce qu'au LAE, parfois, on a des femmes qui vivent encore avec l'auteur de violence. Nous, on ne va pas leur dire quoi faire. On les laisse libres. C'est déjà difficile de chercher de l'aide. Donc, c'est vraiment un lieu ressource.
C'est un processus en plusieurs étapes. On ne part pas du premier coup. Pas forcément. En général, ça prend plus de temps de quitter un conjoint violent.
Et en fonction du cycle des violences, il y a des moments où ça va mieux. Ça vient par vagues. Il y a des moments où on croit à une accalmie. Et du coup, on est là pour accompagner. Mais oui, c'est sûr que quand il y a des cas de danger, là, on peut proposer soit un bracelet anti-rapprochement. Il y a aussi le téléphone grave danger. Le téléphone grave danger, là, c'est vraiment dans les cas les plus urgents où il faut un téléopérateur qui est prêt à décrocher, qui décroche, justement, dans les cas les plus graves, quand les situations sont vraiment hors de contrôle, qu'on a des menaces.
Et donc, vous revoyez aussi, Natacha Rogalan, des femmes, enfin des victimes, plusieurs années après, voilà, qui ne sont pas encore, qui peinent à sortir de ce cycle.
Oui. Enfin, des années, peut-être pas. En tous les cas, je n'ai pas la situation en mémoire. En tous les cas, ça prend du temps. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que ce n'est pas simplement se faire violenter par quelqu'un dans la rue et puis aller porter plainte et c'est terminé, quoi. Je le disais cet après-midi à une autre personne. C'est vraiment un processus impliquant, compliqué, parce que souvent, il y a une histoire de vie derrière. Et donc ça va probablement impliquer une séparation, si on est propriétaire, une vente, si on a des enfants, envisager tout ce qui va avec en termes de choses.
C'est-à-dire qu'à la violence conjugale, en fait, s'ajoutent plein d'autres violences, c'est ça ? Une violence matérielle, économique ?
Alors, c'est possible, pas forcément.
D'accord.
Il peut y avoir une ou plusieurs types de violences. En tous les cas, ça impacte en général plusieurs dimensions de la vie et des dimensions importantes. Donc, c'est compliqué, ça chamboule tout. Et mieux on est préparé, plus on peut savoir où on va, quelles sont les possibilités, etc., plus c'est possible de se dire, OK, ma vie, c'est pas obligé que ce soit ça. Et c'est pour ça qu'un accompagnement pluridisciplinaire, à mon sens, c'est nécessaire pour que chacun puisse apporter son regard, ses conseils, sa compétence, de dire bah voilà, l'accès au droit, c'est comme ça, les possibles, ils sont là, la loi dit ceci, l'accompagnement psychologique pour soutenir et sortir des mécanismes et avoir d'autres points de repère et se retrouver soi, commencer à se reconstruire petit bout par petit bout. Voilà, chaque dimension est importante, et mieux on sait où on va, plus c'est possible de mettre en place les choses, tout en sachant que c'est aussi une séparation. Donc il faut faire le deuil d'une histoire d'amour à la base, souvent. Donc c'est aussi compliqué, c'est engageant.
Oui, je crois Christophe. Nous, on a une expérience beaucoup plus petite, mais quand on a vu des personnes, voire même d'ailleurs des couples qui viennent nous voir, où il y a de la violence conjugale, il y a aussi souvent quand même une emprise très très forte. Et pour la victime, il y a déjà réussir à sortir de cette emprise-là avec des dimensions extrêmement variées, effectivement, et une vraie violence psychologique, et avec plein d'aspects. Nous, on a été amenés, parce que voilà, quand on regarde un peu ce qui se passe dans la violence conjugale, on voit plein de choses, mais nous, on a découvert, par exemple, qu'on avait des hommes gays qui faisaient du chantage à la outing. Si tu me quittes, je dis à tout le monde que t'es pédé. Et c'est des éléments de violence qui s'ajoutent, où je dis à tout le monde que t'as le sida, parce qu'il paraît que c'est crédible. Et donc c'est des éléments qui s'ajoutent et qui rendent la séparation, le fait de quitter le conjoint violent, compliqué. Quoi.
Et qu'est-ce qu'il en est quand on est un proche de la victime ? Quelle aide on peut apporter ? C'est-à-dire, ma question, elle est toute simple, est-ce que je peux aller vous voir ? Et vous dire, voilà, moi je m'inquiète parce que je connais quelqu'un. Vincent.
Indépendamment de la question de l'orientation, vers qui le proche ou l'approche pourrait se tourner, vraiment le message essentiel, je pense, à passer là-dessus, c'est garder le contact avec la victime. C'est essentiel. L'une des stratégies de l'auteur, des auteurs de violence, c'est d'isoler la victime. De sa famille, de ses amis. Alors ça passe par tout un tas de trucs, dénigrement, etc. Et cet objectif-là, il faut essayer de le contrecarrer en restant le plus possible en contact avec la victime. Voilà. Ne jamais perdre contact avec la victime. À partir du moment où la victime perd le contact avec ses proches, enfin, les proches se détournent, pour X ou Y raison, mais souvent du fait du travail de sable de l'auteur, c'est vraiment une alliance qui est perdue et qui peut être parfois vitale.
Donc, même si la personne ne nous entend pas à ce moment-là, il faut garder le contact et puis...
Garder le contact.
Mmh. Et vous accueillez donc des proches ?
Oui, au CIDFF, souvent, ils peuvent prendre rendez-vous. Ils peuvent être présents aux entretiens aussi, si ça rassure la personne. Mm-hmm. On a souvent des grands-parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, où la séparation se passe mal, il y a des pressions sur les enfants. Là, on répond aux grands-parents aussi.
D'accord. On va aborder peut-être aussi la question de l'hébergement d'urgence. Alors, je crois que peut-être, Christophe, j'ai te posé déjà la question. qu'est-ce que tu aurais à en dire ? Est-ce que ce serait pas un problème ?
Oui. Oui, c'est un souci. C'est un souci. Alors, l'hébergement d'urgence, pour nous, il n'est pas seulement quand il s'agit de violence conjugale, mais aussi quand il s'agit de violence intrafamiliale. Il y a des places d'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violence. Pour des hommes, on n'en trouve pas. Et pour des personnes transgenres, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a toujours une bonne raison de leur dire non, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas dans leur situation. Et donc ça, c'est un vrai souci, mais la question de l'hébergement pour les personnes LGBT dans le cas de l'urgence, c'est toujours un problème. Autre exemple qui n'a rien à voir, mais ça dit quand même des choses de notre façon de fonctionner. On a réussi, pour les demandeurs d'asile LGBT, on a réussi à ce que leur particulière vulnérabilité soit prise en compte. Et donc maintenant, il y a des places réservées, des places d'hébergement réservées pour les demandeurs d'asile LGBT. Et en région Centre-Val-de-Loire, ces places sont à Blois, alors qu'à Blois, il n'y a pas de centre LGBT. Autrement dit, il n'y a pas de centre pour les accompagner dans leur démarche. Il y a 3 centres LGBT dans la région Centre-Val-de-Loire, mais on a mis les places ailleurs. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois sur l'hébergement d'urgence pour les personnes LGBT, on a une difficulté supplémentaire.
Et comment vous faites alors ?
Alors nous, en fait, on fait marcher les réseaux. Il y a des réseaux de bénévoles, il y a des familles, il y a des... à Orléans, on a deux réseaux, des gens qui font de l'hébergement pour des raisons de conviction, je ne sais pas comment dire ça, politique, citoyenne.
De conviction.
De conviction. Et puis il y en a d'autres qui ont d'autres convictions, qui sont des convictions religieuses. Mmh. Et même ceux-là hébergent des personnes que nous, on leur présente. Voilà. Après, c'est toujours des hébergements un peu précaires, qui durent pas, mais au moins ça permet à des personnes de pas être dans la rue. Quoi.
Et est-ce que vous êtes dans un travail là actuellement de lobbying, j'aime pas ce terme, mais tu me comprends, pour avoir quelque chose de pérenne justement?
Oui, ben on était la semaine dernière en réunion avec le ministère de l'Intérieur sur la question justement des vulnérabilités des victimes LGBT, mais on n'avance pas beaucoup.
D'accord. Pour les femmes victimes de violences, alors l'hébergement d'urgence, qui peut m'en parler concrètement dans le Loiret?
Nous, les consultes, en fait, on appelle le 115 pour voir s'ils ont des places. Mais là, il faut vraiment justifier de l'urgence. Souvent, c'est complet. Souvent, il y a des délais. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et parfois, c'est la demande de la dame. La dame, elle nous dit « je ne veux pas partir dans n'importe quelle condition. J'aimerais préparer le départ, j'aimerais gérer la séparation, la gestion par rapport aux enfants. »
Dans un contexte déjà très difficile et délicat, vous l'avez dit.
Oui, et après, on travaille avec nos partenaires. Nous, on travaille avec l'espace ressources logement de l'EDAFI, par exemple. Mais on peut toquer au maximum de portes.
D'accord. Et concrètement, est-ce qu'il n'y a pas de chiffres à donner sur le Loiret de femmes qui pourraient se trouver en situation d'hébergement? Non,
je ne les ai pas en tête.
D'accord.
Je sais qu'il y a plusieurs
pas
places,
du tout une question piège.
Il y a plusieurs centres ici, ouais. Il y a 15 places à Montargis, il y en
D'accord.
a 5. Mais je préfère que ce soit
oui, bien sûr.
Les gens qui s'en occupent, qui vous donnent les chiffres ou d'aller voir les rapports.
Donc à savoir, il y a quelques places,
oui,
mais ce n'est pas non plus pléthore. Est-ce que ce serait un axe d'amélioration à envisager?
Oui, sachant que c'est pas toujours aussi... En fait, ça dépend des établissements d'hébergement, mais parfois c'est des colocations, des cohabitations, la cuisine peut être partagée. Donc ça peut être un frein pour des femmes qui ont été seules, qui se sentent pas... Aussi d'avoir le poids de se dire « Ah, là, il me faut un hébergement d'urgence ». Oui, en fait, je suis victime parce qu'il y a des veilleurs de nuit, il y a tout un dispositif pour les protéger. Ça peut impressionner.
Oui, et puis on a besoin d'un cadre aussi, on peut retrouver son intimité, se reconstruire peut-être. D'accord. Je voulais qu'on reparle un petit peu aussi des outils de prévention sur les violences, parce que vous aviez dit que vous interveniez sur le champ de la prévention. Il a été évoqué tout à l'heure Amour sans violence, une campagne du CIDFF. Est-ce qu'on peut en dire deux mots?
Oui, bien sûr. L'action Amour sans violence a été créée par notre fédération régionale. Et en fait, c'est un outil à destination des jeunes pour expliquer avec des termes simples, justement pour les jeunes, comment repérer les violences, comment accompagner si on est témoin de violences. Et en fait, là-dedans, on explique tous les types de violences. Parce que parfois, justement, en action, on s'est rendu compte qu'il y a certains jeunes qui nous disent « Moi, je n'ai pas eu de modèle d'une relation saine. » Ils ne se rendent pas toujours compte. Ils ont pas les modèles. Et parfois, il faut juste faire un rappel de la loi. Parce que, quel que soit l'âge, des violences peuvent apparaître. Et il y a beaucoup de questions de comment être un bon témoin, comment être un bon allié, quoi faire quand ils sont témoins.
Tout à fait. Et ça rejoint ce que disait Christophe aussi tout à l'heure sur l'éducation. Ça renvoie à ça également. Amour sans violence, c'est une campagne de prévention qui se décline sous format Internet. Enfin, il y a un site Internet dédié. Une exposition également. Et puis des petits fascicules qui sont plutôt très très bien faits. Je crois me souvenir au planning, j'ai oublié le... Violence, tu veux que je te fasse un dessin? Voilà, tu peux nous en parler?
Ouais, en fait, on s'est rendu compte, y a une grosse difficulté quand on parle des violences, c'est l'identification, identifier ce que sont les violences. Typiquement, si on pose la question à une personne, avez-vous déjà vécu des situations de violence ? Ah ben non, je ne suis pas une femme battue. Et en fait,
c'est un peu comme les cyberviolences dont on parlait tout à l'heure. La difficulté à se reconnaître comme victime.
À se reconnaître comme victime et puis à identifier ce que sont les violences et quelles formes elles peuvent prendre. Elles peuvent être multiples, prendre plein de formes. L'idée, c'est avec cet outil, donc les violences, tu veux que je te fasse un dessin, c'est de proposer, un peu comme ce qu'a fait le CIDFF d'ailleurs, un panel, donc sous la forme de petits strips, hein, 3-4 cases, petite bande dessinée, toutes les façons dont la violence peut s'exercer. Hein. Donc voilà, ça va aussi bien de la situation du harcèlement de rue au viol conjugal, situation d'excision, etc., mariage forcé. Voilà, pour vraiment permettre l'identification des violences. Parce que ça, c'est la définition des violences. Je suis sûr que là, on ferait un petit sondage, on aurait 50 définitions différentes de ce que sont les violences. Et peut-être plein qui ne seraient pas justes, en fait. Hein, pas au plus juste de la façon dont on devrait, je pense, à mon avis, définir les violences. Quoi. Donc vraiment, ce travail d'identification, il est essentiel. Il participe aussi au travail de dévoilement. De dévoilement au sens de, OK, c'est ça que je vis. C'est ça que je vis. Quoi. Alors, c'est violent, parfois, de se rendre compte de ça qu'on vit. Mais ça peut aussi faire du bien de mettre des mots précis sur ce qui est vécu, quoi. Et ça, c'est des petits outils qui peuvent être utilisés. Et puis voilà, nous, dans notre démarche de questionnement, on est là-dessus, quoi, sur définir avec les personnes ce qui est vécu.
D'accord. On a parlé de prévention. On a parlé d'accompagnement. On passera tout à l'heure s'il y a des demandes de précision, des demandes plus précises. Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est depuis le Grenelle des violences, est-ce que les choses ont changé, les moyens ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce qu'il vous faudrait dans vos organisations respectives ? Qui veut commencer ? Vaste question, qui veut commencer ?
Je veux bien continuer. Alors, bon, des moyens, bien sûr. Mais là, on a envie au planning de s'orienter de plus en plus d'orienter notre travail avec les mecs, avec les garçons, les hommes. Alors, pour le moment, on intervient en prison assez fréquemment. J'ai reçu un mail tout à l'heure, j'ai vu, rebelote l'année prochaine, il faut qu'on refasse ça.
Donc auprès des auteurs ?
Alors,
question.
Ils ne sont pas identifiés en tant qu'auteurs. On les accroche pour travailler sur la parentalité, sur comment être un bon papa. Et après, bon, on essaie d'être un peu malin et on détourne le truc pour travailler vraiment sur la question de rapport avec leur compagne et puis bah, derrière la question des violences, etc. Parce que bien sûr que la personne qui s'occupe de ce groupe-là à la prison, elle sélectionne les types. On va travailler aussi enfin, au SCJE, donc dans des
Les stages
SCJE, je sais pas.
Service de contrôle judiciaire et d'enquête.
Voilà.
Service de contrôle judiciaire et d'enquête, enfin.
On a participé à un temps autour de la responsabilisation pour des auteurs de violences. Bon, il y a du travail. Clairement, il y a beaucoup, beaucoup de taf. Et on aimerait, voilà, avec les plus jeunes, les gamins, réfléchir pour comment travailler avec les garçons sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question de la virilité, la question de la domination. La question du rapport de force, parce que bah, nous, c'est ce qu'on constate en tout cas. Beaucoup de garçons se définissent dans le rapport de force. Le rapport à l'autre se fait par le rapport de force. Le respect qui est en fait de la crainte. Enfin voilà, c'est
travailler. Le terreau de la violence, quoi.
Le terreau de la violence, tout à fait.
Natacha Rogalan, depuis le Grenelle. Alors
Alors, non, j'allais dire, ouais. Grenelle, ça a changé beaucoup de choses, je trouve, en tout cas sur le plan policier, judiciaire. Enfin, changé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place, impulsées, inspirées par d'autres pays et enfin mises en place en France. Donc, en tous les cas, ça, on ne peut pas l'enlever. dont beaucoup plus d'ordonnances de protection, de TGD, donc le téléphone grave danger, une systématisation des procédures quand les personnes se présentent pour des violences conjugales. Il y a, maintenant, la main courante, ce n'est plus du tout la règle. Hein. D'ailleurs, les personnes peuvent être déçues de repartir sans pouvoir déposer de main courante parce que dès lors qu'il y a des violences suffisamment importantes, c'est proscrit. Donc, c'est au moins une audition. Si la personne ne souhaite pas déposer plainte parce que c'est trop compliqué cette étape-là, c'est au moins une audition, et ce qui veut dire une possible lecture par le procureur qui lui décide des poursuites. Donc ça a changé des choses. Alors on est un peu dans le systématique, quoi. On ne sait pas trop mettre des curseurs, mais en même temps c'est compliqué. C'est une grande responsabilité pénale aussi. Après, clairement, il faut le double de moyens pour moi.
D'accord.
Parce qu'on signale plus, il y a beaucoup plus de plaintes qu'avant, c'est très bien, il y a des nouvelles infractions, je ne voulais pas dire chaque année, mais en tous les cas, on élargit, on étoffe le panel des faits. Ce qui est
avec les cyberviolences notamment.
Les cyberviolences, oui, ça en fait partie, mais les violences psychologiques, c'est 2010, quand même, il y a des choses qu'on prend en compte, on a un train de retard par rapport à ce qui se passe au niveau de la société, mais quand même, ça légifère de ce côté-là. Mmh. Par contre, c'est les moyens qui ne sont pas exponentiels non plus. Et donc, du coup, on est limité de ce côté-là, tant sur un plan policier que judiciaire. Donc oui, les moyens, en premier. Et effectivement, je rejoins complètement Vincent sur le fait que travailler auprès de la population victime, c'est important, c'est nécessaire pour réparer, reconstruire, et puis peut-être se projeter de vivre autre chose après dans sa vie, mais que ça en passe de manière aussi importante par qu'est-ce qui s'est passé chez la personne qui est passée à l'acte, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas d'autre moyen que d'être dans ce passage à l'acte-là, parce que ça va recommencer aussi, du coup, après. Et puis ce sont des modèles, malheureusement, qu'on risque de transmettre aux tout-petits. Donc accompagnement et prévention, et moi j'irai même plus loin parce que ça c'est mon côté bisounours. Moi je pense que vraiment il faudrait qu'on fasse des choses à l'école, petite enfance, qu'on apprenne à identifier ses émotions, à les normaliser, à comprendre ce que ça vient dire, à se respecter quand on les vit, à respecter l'autre quand il les vit. Enfin bon, je pourrais en parler pendant une heure donc je vais m'arrêter, mais voilà, pour moi il y a aussi un gros travail de ce côté-là pour donc, qu'on fasse de la prévention sur des années.
Donc du positif, mais vraiment des moyens à renforcer largement. Pour le CIDFF, quel serait l'ombre au tableau ? Est-ce qu'il y a des changements depuis le Grenelle aussi ?
Oui, c'est alors déjà on a eu une meilleure prise en charge en commissariat. Par contre, oui, il manque de moyens. Il faudrait plus de professionnels, davantage de places en hébergement d'urgence, par exemple, ou dans des établissements, dans le privé peut-être, mais en tout cas un lieu ressource. Un lieu où elles se sentent bien, à l'aise avec plusieurs enfants parfois. Et nous, on fait partie d'un collectif d'associations féministes qui a estimé qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros pour lutter efficacement contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles.
D'accord. Ce qui est en dessous du coût de la virilité, je crois qu'il est estimé par... 16 milliards. Voilà.
Pétavin.
Merci, Lucie Pétavin. J'ai toujours peur de décorcher son nom, donc tu me sauves. Mais effectivement... c'est une goutte d'eau par rapport au coût de la virilité. Christophe ?
Le Grenelle des violences conjugales. On a failli y échapper, nous, en fait. Ils ont failli nous oublier. Et en fait, c'est un député qui est tombé sur la campagne d'information qu'on a fait, nous, sur les violences conjugales dans les couples LGBT, qui s'est dit « Ah oui, tiens, il ne faut pas qu'on les oublie ». Et du coup, on a présenté notre campagne très modeste, hein, c'est des flyers et des affiches. On a présenté ça à l'Assemblée nationale et il y avait un responsable de la gendarmerie nationale qui était là ce jour-là et qui s'est dit on fait des formations sur les violences intrafamiliales, il faut qu'on pense qu'il y a des personnes LGBT dans le monde, enfin en France. Et ça a plutôt bien marché, ce qui fait que maintenant, tous les trimestres, en fait, on va à Rosny-sous-Bois pour former des gendarmes référents sur les violences intrafamiliales. Et nous, on les forme sur une petite session de 3 heures sur les aspects LGBT, les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle. Et puis évidemment, donc des gendarmes de toute la France. D'accord. Et Et du coup, on a formé des gendarmes du Loiret, des gendarmes référents dans le Loiret, qui maintenant nous font former leurs collègues gendarmes sur le territoire du Loiret. Et donc là, on doit avoir, je pense, à peu près 2-3 gendarmes par gendarmerie sensibilisés aux questions LGBT. Donc pour nous, c'est vraiment...
C'est une avancée.
C'est une vraie avancée, oui. Parce que ça sécurise la démarche des personnes qui ont besoin d'aller en gendarmerie pour porter plainte. Voilà.
Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses indispensable aujourd'hui pour continuer à travailler correctement?
Bah, je vais dire comme mes collègues, hein. Les moyens.
Vous n'êtes vraiment pas originaux.
Alors, je vais voilà. On a un petit peu plus de moyens qu'on en avait avant.
D'accord.
Hein, on va pas se le cacher. Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, hein, mais voilà, là, on a réussi. Nous, on a un projet de développement de l'association depuis quelques années, et là, on arrive à, on va dire, à passer la seconde. Mais les moyens... Aujourd'hui, il y a des centres LGBT qui ferment faute de moyens. Le gouvernement dit qu'il souhaite en voir ouvrir au moins un par région. Et en fait, on n'a pas les moyens pour ça.
D'accord. On a parlé beaucoup du Loiret, mais évidemment, tout ça se décline aussi au niveau régional. Tu as fait un petit peu le pont, là. Ben justement, je vais en profiter. Parmi vos associations... qu'est-ce que vous pouvez en dire sur les actions que vous pouvez mener aussi dans le cadre régional, toujours dans l'idée soit d'accompagnement des victimes ou... Manon ?
Nous avons les CIDFF sont présents dans tous les départements et nous avons plus de 70 lieux de permanence qu'on peut retrouver sur notre site internet. Donc on donne des brochures à nos partenaires, on participe aux journées d'action, on organise des formations aussi, des formations auprès de professionnels, que ce soit du milieu médical, de la santé, du social et du judiciaire aussi. Et après, on a le rôle de prévention en collège, en collège ou en lycée, dans plusieurs actions.
D'accord. Vincent, pour le planning ?
Nous, on est une fédération régionale, mais pour le moment, on n'a pas encore vraiment d'action spécifique au niveau régional. On est, nous, très, très localisés, l'agglomération orléanaise, quoi, grosso modo.
Et alors, Natacha Rogalan, est-ce qu'il y a d'autres Natacha Rogalan en région ?
Oui, j'allais dire, moi, c'est très, très, très local, c'est Orléans. Ceci dit, non, c'est pas vrai, parce que effectivement, les postes psychomissariats, ça date de 2006 pour les premiers. Elles étaient 6. Aujourd'hui, 2023, on est 80. Quand même, le ministère de l'Intérieur a augmenté les postes. Et du coup, sur la région centre, j'ai maintenant une collègue à Tours, au commissariat de Tours.
D'accord, voilà. Très bien. Important à savoir. Le GHGL n'a pas de rayonnement, ça rayonne, mais je veux dire, de dimension, régionale, ça reste du Loiret, GHGL, oui. L pour Loiret, mais...
Oui, c'est GHGL 45, c'est déjà beaucoup.
Oui.
Enfin, non, en fait, c'est pas encore beaucoup, parce qu'en fait, on est aussi surtout orléanais, en fait. Et donc là, ça y est, on se lance, on s'est donné les moyens pour aller faire, alors c'est très modeste, hein, une permanence par mois à Montargis, à Gien et à Pithiviers, parce qu'il y a quand même la moitié de la population du Loiret qui n'habite pas dans la métropole d'Orléans. Donc ça, c'est, dans l'année qui vient, on va essayer de faire une permanence par mois dans ces trois villes-là.
C'est énorme.
C'est énorme. La difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de centre LGBT en Eure-et-Loire, il n'y a pas de centre LGBT dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas de centre LGBT dans l'Yonne, il n'y a pas de centre LGBT dans la Nièvre. Et du coup, on a aussi des gens qui viennent de ces territoires-là. On est même sollicité par des établissements scolaires de Auxerre, Chartres, et on ne peut pas vraiment répondre à la demande. Ponctuellement, on y va, mais on n'a pas de dimension régionale. Par contre, il y a deux autres centres LGBT, donc un à Tours depuis, je pense, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et un qui s'est créé il y a 2 ans à Bourges.
D'accord.
Donc voilà, il y a aussi ces ressources-là à Tours et à Bourges.
D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les permanences au GHGL dans le Orléans ?
Oui, on est ouvert tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 18h, sans rendez-vous. Et puis, il est aussi possible de prendre des rendez-vous le matin.
Très bien.
Et puis, éventuellement, à d'autres horaires ou à d'autres jours, si jamais ce n'est pas possible pour les gens, on se débrouille. Mais voilà, en gros, c'est quand même ça, les horaires.
Rue Sainte-Anne.
Rue Sainte-Anne, au 28 bis.
Le CIDFF du Loiret, on vous contacte via Internet, au téléphone ?
Au téléphone, on a un standard et en fait, on va demander d'où vient la personne et on va proposer la permanence qui est le plus proche ou un rendez-vous téléphonique s'il y a vraiment urgence. On a l'habitude de faire des rendez-vous téléphoniques ou en visio. Ça peut se faire.
Pour le réseau LAE, est-ce qu'il y a des moments où on peut des permanences ?
Oui, alors il y a plusieurs permanences.
Lieu d'écoute et d'accueil. Regarde. D'accueil et d'écoute.
D'accueil et d'écoute. Oups. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. On a le mardi. Oula. Pardon.
Ouais, on vous laisse. On vous laisse.
Ouais.
Ouais. On peut vous voir sur rendez-vous. On peut se redire.
Oui, c'est plutôt sur rendez-vous parce que maintenant, les orientations de l'activité, ça tourne. Dans tous les cas, j'y suis presque tous les jours par le mercredi. Je suis à 80%. Et puis après, voilà, le numéro de téléphone, on le trouve facilement. On appelle le commissariat pour avoir le numéro et pour prendre rendez-vous ou être en contact.
D'accord, merci. On peut revenir sur LAE
oui.
ou pas
ouais. Oui, le LAE, du coup, à Orléans, on a une permanence toute la journée le mardi. On a le jeudi matin à Gien, un jeudi matin sur deux. Le jeudi toute la journée à Montargis, sauf quand on est à Gien. Et à Pithiviers le vendredi matin, mais ça se prend sur rendez-vous aussi. Et je voulais rajouter qu'on a des oui. groupes d'échange en collectif. On a mis ça en place à Orléans et ça marche pas mal pour les femmes, pour qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas toutes seules. Et ça leur permet de cheminer plus facilement avec leur père. Et on a mis ça en place aussi à Montargis. On est en train de régler la fréquence. Ça va se développer.
D'accord, c'est parfait. Planning ?
Alors, nous, on est 2 rue Saint-Paul, près de la place de Gaulle. On est alors nos permanences d'accueil donc dans ce lieu-là, c'est le mardi et mercredi après-midi de 13h30 à 19h et le vendredi de 9h à 14h. Il y a des consultations médicales sur rendez-vous à peu près sur les mêmes créneaux. On est sur la source au centre social Romain Rolland, 33 rue Romain Rolland. Nous sommes ouverts le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30. Des consultations médicales en parallèle. Et nous sommes aussi sur Beaugency le vendredi matin, vendredi de 10h à 15h, avec en plus des consultations médicales sur rendez-vous.
Merci Vincent.
38 70 00 20.
Je vous remercie toutes et tous. Voilà. Bonne soirée.